Canus Info. Tous les deuxièmes lundis du mois, le Canu Info s'organise en mixité choisie sans Maxis pour parler de l'actualité
avec un regard féministe.
Quoi ? On n'a pas le droit d'y aller, ouin ouin, mais c'est du racisme, c'est de la discrimination de l'homme blanc qui pourtant souffre au quotidien.
Sur Radio Canu,
102.2,
la plus rebelle des radios.
Non,
les plus rebelles de la radio.
Que leur place n'était pas là, que dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors.
C'est nous qui faisons leur richesse. Et aujourd'hui, s'ils sont en cravate, ils marchent avec des voitures de luxe. À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Si nous-mêmes, les femmes, on ne sort pas du silence pour dire stop, parce que c'est nous qui subissons. On les fait enrichir et nous, on ne gagne rien dans nos poches.
Non, ne me demandez pas, non, ne me battre pour changer tout ça. De ne pas me battre pour changer tout ça.
Bonsoir, bonsoir, c'est la rentrée des Canus Info, le Canu Info en mixité choisie. On est le 11 septembre et l'émission aujourd'hui va commencer.
Tout de suite maintenant, il est 19h06.
Et à l'international, on parlera des grèves aux États-Unis. Au national, on parlera aussi d'un bahut en grève contre l'islamophobie d'État, de ce qui se passe à Emmaüs Grande-Synthe, des grèves dans les transports à Toulouse et à Paris. Et puis, on enchaînera au local.
On enchaînera au local avec un petit reportage sonore à partir de la manifestation Justice et Vérité pour Idir qui s'est tenue samedi dernier. Et on finira avec un dossier logement cette fois-ci et hébergement, où on passera un reportage sur la victoire des occupantes du gymnase de Bellecombe et on parlera également du squat pyramide qui est expulsable.
Et cette fois, on va bien aux États-Unis, c'est parti.
Ah, enfin. Ah, le rêve américain, toujours le rêve américain. Et c'est une dynamique pro-grève qui se propage dans tout le pays. Après le cinéma et la logistique, c'est au tour de l'automobile et des jeux vidéo de voir des menaces importantes de grève. Aux États-Unis, comme dans plein d'autres endroits ailleurs, les personnes sont confrontées à l'inflation. Et les travailleurs et travailleuses états-uniennes se syndiquent. Et les grèves en cours de préparation pourraient atteindre des niveaux inédits depuis 30 ans. Petit tour d'horizon des grèves. En cours, côté séries, films et Hollywood, les deux syndicats de scénaristes sont en grève depuis le 2 mai. C'est 11 500 personnes. L'objectif est de négocier un salaire minimum. Depuis le 14 juillet, ils et elles ont été rejoints par 160 000 actrices. Et la grève aux États-Unis, ou même la menace de grève, ça paye. Dans l'aérien et l'aéronautique, 99,4% des hôtesses et stewards d'American Airlines ont voté en faveur d'une grève au milieu des négociations contractuelles entre le syndicat américain et le transporteur. Cette menace de grève fait suite à la grève de 6000 travailleurs à l'usine Spirit AeroSystems, qui est le fournisseur de Boeing dans le Kansas et qui a duré 2 semaines en juillet. Une grève pour bientôt. La semaine dernière, le syndicat des travailleurs de l'industrie automobile américaine, qui regroupe quand même 150 000 travailleurs et travailleuses, a adressé une demande à la direction des entreprises General Motors, Ford Motors et Stellantis pour avoir une augmentation de 46% des salaires, c'est-à-dire pour être augmenté autant que leur patron. En plus de l'augmentation des salaires, les travailleurs et travailleuses ont demandé la réduction du temps de travail de 40 à 32 heures par semaine, l'augmentation des pensions de retraite, le rétablissement de l'assurance maladie pour les retraités et l'arrêt de la pratique de réduction des salaires pour les nouveaux employés. Si le syndicat ne trouve pas un accord avec les entreprises, les travailleurs et travailleuses devraient se mettre en grève à partir du 14 septembre.
Eh bah, on souhaite bonne grève aux Américains et Américaines et on fait tout de suite une petite pause musicale avec justement une rappeuse syro-américaine et son morceau qui s'appelle Hijabi, et c'est Mona Haidar qui rappe contre l'islamophobie.
Mona
What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see Oriental. You steady working that dental. You popping up at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper. If you want education. All around the world, love women. Ladies, we was born in the 80s, so pretty like the Euphrates, and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some hot yoga, taking back the misnomers and teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama, make a feminist planet, woman haters get banished, covered up or not, don't ever take us for granted. All around the world, love women every shade of these mixtures, these hippies, these prissies, these Sufis, these dreadies, these sunnis, these shiris, Yemenis, Somalis, Lebanese, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso.
Toujours sur le Canus Info du lundi. Il est 19h13 et on vient d'écouter Mona Haïdar, Hijabi. Et maintenant, tout de suite, les petites infos au national.
Au national, on parle d'abord de l'offensive raciste qu'ont subi des élèves de toute la France à la rentrée scolaire. Depuis que le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a pondu une circulaire interdisant les tenues, je cite, « manifestant une appartenance religieuse », comme l'abaya et le kami, c'est une véritable chasse aux sorcières à l'entrée des établissements où les personnels éducatifs zélés mesurent la longueur des jupes des jeunes femmes, puis déterminent, en fonction de leur couleur de peau et de leur apparence, s'il s'agit d'une tenue manifestant une appartenance religieuse ou pas, parfois après leur avoir fait passer un petit interrogatoire sur ce qu'elles pensent de la République ou de la religion. Pour assurer les moyens répressifs de l'État dans cette opération de discrimination à grande échelle, le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, a pondu une circulaire supplémentaire pour demander une réponse pénale ferme, rapide et systématique en cas de comportement menaçant, violent ou intimidant lié à l'application de cette mesure. Donc, face à cette offensive, il y a quand même des établissements qui essayent de se mobiliser, notamment un en Seine-Saint-Denis, à Stains, je ne sais pas comment on dit. L'Assemblée Générale du Personnel a voté la grève à partir de mercredi 6 septembre et appelé à un rassemblement à midi devant l'établissement contre l'islamophobie d'État et pour davantage de moyens. Donc les profs, les parents d'élèves et les élèves expliquent que ces mesures concernant les abayas relèvent donc de l'islamophobie d'État et surtout détournent des vrais problèmes de l'éducation nationale, notamment le manque de moyens, puisque dans leur établissement, par exemple, il n'y a pas d'infirmière scolaire On leur a encore retiré des heures de cours à la rentrée. Et c'est donc ça dont devrait s'occuper le ministre Gabriel Attal, évidemment. Donc, on soutient la lutte des personnels et des élèves du lycée de Saint-Denis. Et surtout, on espère que ces grèves et ces manifestations contre cette mesure islamophobe vont se multiplier partout en France. Et on passe tout de suite à un autre sujet au national.
Un autre sujet consternant. Depuis le 22 août dernier, 40 compagnons sans papier d'Emmaüs Grande-Synthe ont entamé une grève illimitée pour dénoncer leurs conditions de travail indignes. Ils rejoignent ainsi les compagnons de Saint-André-les-Lilles qui ont, eux, commencé leur grève début juillet. Ces deux membres des compagnons accusent les directions des antennes locales de Grande-Synthe et de Saint-André-les-Lilles de traite d'êtres humains et de travail dissimulé. En effet, la plupart des compagnons sont étrangers en situation irrégulière et en rejoignant la communauté, ils espèrent être régularisés après 3 ans de travail. Mais la direction ne tient pas ses promesses et ne présente pas leur dossier de régularisation à la préfecture. Happy Patrick, qui a rejoint la communauté il y a 5 ans, dénonce « L'esclavage est un gros mot que l'on ne doit pas prononcer, mais malheureusement dans nos situations, on est vraiment des esclaves. » Ibrahima Yatara est lui aussi compagnon depuis 5 ans et il déclare travailler 40 heures par semaine contre le gîte, le couvert et 150 euros par mois. Ça fait pas beaucoup. Les compagnons demandent le départ de l'actuelle direction et présidence des antennes locales, la régularisation immédiate avec quart de séjour, le paiement des allocations de retard et une augmentation à 392 euros, ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Mais la direction ne semble pas l'entendre de cette oreille, puisqu'elle les a convoqués au conseil d'administration qui devrait avoir lieu ce jeudi, pour les exclure du compagnonnage et les mettre à la rue, selon l'avocat des grévistes. C'est l'abbé Pierre qui doit se retourner dans sa tombe. Évidemment, on va continuer de suivre cette grève avec attention et on apporte tout notre soutien aux grévistes.
Et on reste donc toujours au national, et cette fois on va pas parler d'une grève de transport, mais de deux. Une à Toulouse chez Tisséo et une à la RATP de Paris, qui se sont tenues le vendredi dernier 8 septembre. Mais vous allez me dire, pourquoi deux grèves de transport ce 8 septembre? Est-ce que c'est la journée internationale des transports? Alors non, car vous apprendrez que la journée mondiale du transport durable se tient le 26 novembre. Non, le 8 septembre, il s'agissait du début de la Coupe du Monde du rugby. Et qui dit Coupe du Monde de rugby dit afflux massif de personnes dans les transports. Tisséo et la RATP en ont alors profité pour créer un rapport de force dans les négociations lors de ce moment clé pour le gouvernement français. Le déroulement de cette Coupe du Monde de rugby est un enjeu important. Elle se veut être une vitrine positive pour les futurs JO 2024 en préparation. Les transports étant bien évidemment cruciaux à Paris et dans les autres villes accueillant des compétitions. À Toulouse, les syndicats Sud, CGT, FNRC et CFDT de Tisséo ont appelé à débrayer entre midi et 14h et à partir de 18h pour les équipes du soir. Même si les matchs d'ouverture ne se tenaient pas à Toulouse ce soir-là, de nombreuses supporteristes ont rejoint la diffusion en public. Mais à Toulouse, cet appel à la grève s'inscrit en fait dans une mobilisation qui a débuté déjà en avril 2023, en réaction à la suppression de la clause de sauvegarde, conjointement au constat d'une casse du service des transports toulousains, notamment avec la multiplication du recours à la sous-traitance. Donc, quant à cette clause de sauvegarde, elle permettait notamment une indexation des salaires sur l'inflation, non négligeable dans ce contexte inflationniste. L'annonce de sa suppression a donc été suivie de plusieurs journées de grève avec une forte mobilisation des travailleuses. Face à une forte répression de la part de la direction qui souhaite faire payer la grève aux syndicats, en les attaquant notamment en justice lors d'une audience qui se tiendra le 18 septembre, les différents syndicats devraient lancer d'autres appels à la grève sur les 5 journées où les matchs se dérouleront à Toulouse. Quant à la RATP à Paris, également en grève le 8 septembre, même constat, casse du service public, à quoi s'ajoute la demande d'une revalorisation salariale et une augmentation d'effectifs. Jean Castex, ancien ministre, maintenant à la tête de la RATP, essaye de garder la tête haute dans ce contexte. On rappelle par ailleurs que Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, proposait en janvier dernier de suspendre le droit de grève dans les transports lors des JO 2024, ce qui illustre bien la tension qui réside autour des transports publics lors de ces grands événements. Face à cela, les salariés de la RATP demandent à être réellement considérés dans une telle logistique et demandent une revalorisation salariale pour tous. Pour le moment, la direction joue la division en promettant des primes pour celles et ceux qui travaillent à des postes proches de la compétition. De nouveaux préavis de grève ont déjà été déposés. Si des agents de la TCL nous écoutent, vous savez ce qu'il reste à faire.
Et on fait tout de suite une petite nouvelle pause musicale avec Neira Le Nord.
La plage, j'en fais des couleurs dans ma vie. Je me suis levé plus que tout, qu'est-ce que je fais là? À ton avis, j'ai rien à perdre. Tout t'a donné, j'arrive, personne ne m'attend. Ma bonne étoile ne cesse de briller. J'ai prié, prié pour avoir la patience. Je ne pas suivre la tendance. Je suis le leader de la troupe. Ils se nourrissent de ta chair pour mieux cracher dans la soupe. Je me suis tué au charbon. Je m'en suis sorti avec des cloques. On m'a foutu sur le bûcher. J'ai allumé ma clope, personne ne m'aime, c'est pas mes potes. Je crois que ça les réconforte. De penser qu'on a le même cœur, de penser qu'on se prend les mêmes portes. Me surpasser, je fais en sorte. Ça ne suffit pas pour être au top. Fuck les règles, je compte pas mourir avec mes rêves. Ils ont fini par prendre des notes, je leur ai fait croire que j'étais l'élève.
Je ne perds pas le nord. On va sur son enfant. Traîne des casseroles, je raye le plancher, la mâchoire est acérée. Tête de casseur, poing serré, leurs bêtises sont avérées. Je verrai le bout du tunnel quand je reviendrai à la maison. Je me suis engagé pour les miens, je peux pas avorter la mission. Sourcils froncés, majeur en l'air. Je te parle français, c'est qu'un savoir-faire. Ils sont coincés, je ne sais pas me taire. مش هخلي اي نكلاليهم ولا نكلاليهم يا
Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, c'est le Canus Info du lundi, deuxième lundi du mois, et on vient d'écouter Neira, une rappeuse de Saint-Denis, et sa chanson Le Nord. Et on avait encore un petit point à faire au national.
Oui, quelques petits mots sur le procès des organisateurs russes présumés des manifestations contre les méga-bassines. Donc vendredi, 9 personnes étaient jugées pour être suspectées d'avoir organisé des manifestations contre les méga-bassines à Sainte-Soline en octobre 2022 et en mars 2023. Donc le procès débute à 13h30 au palais de justice de Niort, mais après 8 heures de débat, la défense demande une deuxième journée d'audience vu l'heure tardive. Il est alors presque 22h et de nombreux témoignages, plaidoiries restent encore. Le tribunal a alors décidé de reporter la deuxième journée d'audience au 28 novembre à 9h. Les prévenus encore encourent 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Il est clair que pour les procureurs, il s'agit de montrer l'exemple face à une contestation importante et un fort soutien au soulèvement de la terre et à cette lutte. Ce procès s'inscrit aussi dans un contexte de pression à l'égard des soulèvements de la terre et des autres collectifs mobilisés contre ce projet, alors que le gouvernement a demandé une dissolution du collectif, qui, je le rappelle, a été suspendu en juillet dernier par le Conseil d'État. Parallèlement à l'audience, un rassemblement était organisé devant le palais de justice, regroupant 5000 personnes selon les organisateurs et organisatrices, et ce malgré un gros dispositif policier permettant l'usage de drones pour la surveillance et instaurant un périmètre de sécurité devant le tribunal. On soutient les inculpés.
Et on passe tout de suite à notre dossier sur les luttes pour le logement et l'hébergement, avec un petit changement de sommaire, parce que y a, à cause d'un petit problème technique, on ne va pas pouvoir passer tout de suite notre reportage au local sur la Mars Justice et Vérité pour y dire de samedi dernier. Mais du coup, on va commencer par ce qui se passe au squat Pyramide. C'est donc un squat où il y a de 200 à 300 personnes menacées d'expulsion. Le lieu est expulsable à partir du 12 septembre. C'est un lieu qui appartient à la mairie. Les occupants demandent à la mairie de prononcer une réquisition pour leur permettre de rester dans le lieu. Et déjà, on va écouter quelques témoignages d'habitants et habitantes au moment où ils préparaient un rassemblement la semaine dernière qui a eu lieu vendredi dernier à 17h30 devant l'hôtel de ville. On écoute tout de suite les témoignages de quelques habitants du squat Pyramide.
On est menacé de quitter, c'est vraiment inquiétant. Et voilà, c'est ça qu'on traverse actuellement. Compte tenu de la condition de vie que nous vivons, il y a plus de 200 et quelques personnes ici et plus de 70 familles. Donc vous voyez, la situation, c'est vraiment compliqué. Et la semaine dernière aussi, la police qui a débarqué ici à 8h du matin au squat de Pyramide. Et avec force, et c'était vraiment un peu effrayant. Et on était perturbés. Et après, ils nous disent qu'ils nous donnent un délai de 2 semaines de libérer le lieu. Et du coup, là, vraiment, on n'a pas là où y aller. On a prévu une manifestation le jeudi auprès de la mairie de Lyon. Et ça sera à l'hôtel de ville. On a rendez-vous là-bas à 17h pour manifester afin que le maire puisse au moins réquisitionner le lieu et trouver des solutions pour les familles, pour les héberger le plus vite possible. Et donc on doit faire ça le jeudi de cette semaine, Inch'Allah. Je serai là-bas et moi et le bébé, ma famille, nous irons tous ensemble. Et le maire va nous voir ce jour, il va nous entendre.
J'ai très peur de l'exclusion même. Parce qu'une fois que je suis expulsé d'ici, je ne sais plus où aller, je ne sais plus comment je dois faire. Je ne connais personne ici. En tout cas, c'est très difficile. Ça sera très difficile pour moi. Très, très difficile. Quand je suis seul dans la rue, tout peut m'arriver. On peut me violer, on peut me faire tout. En tout cas, ce n'est pas prudent. Mais quand je suis avec mes frères ici, au moins, je suis en sécurité. On est ici, il y a des femmes enceintes parmi nous. En tout cas, il y a d'autres même qui sont presque à terme. D'autres sont à 3 mois. D'autres sont, en tout cas, beaucoup de femmes enceintes sont nombreuses. Nous sommes ici, en tout cas. Il y a manifestation jeudi. On va marcher pour ça jeudi. Inch'Allah, je serai là-bas aussi.
L'exclusion, lorsque j'avais appris ça, ça m'a choqué. J'ai même passé 2 jours sans manger parce que j'ai fait 2 mois dehors. Et si on me dit encore, il veut me mettre dehors encore. Ah là, du coup, je ne sais pas comment expliquer. Hein? Parce que j'ai demandé à la préfecture de me donner l'hébergement. Ça fait 2 mois et je suis là, il n'y a pas de réponse. Si j'ai gagné quelque part, là où dormir, on me dit de me retirer là-bas encore. Donc je vais lutter pour ça parce que je suis demandeur de l'asile. Et j'ai tous mes papiers ici. J'ai toutes les preuves ici. J'ai pas peur pour ça. Hein? Je vais lutter pour ça. Parce que cet bâtiment-là, ça m'a beaucoup aidé. On n'a pas d'autre choix. Il faut qu'on fasse la manifestation pour qu'on puisse rester ici. C'est très important. On va sortir. Je suis motivé. Je suis fin et prêt. J'ai le droit à un hébergement. Donc je suis fin et prêt. Je vais sortir, franchement.
Je ne peux pas rester au-dehors avec ma femme. On va aller à la manifestation pour qu'ils puissent nous pardonner, pour qu'on puisse rester ici, pour qu'ils vont chercher une solution pour nous donner une maison. Si on est dans la rue, on ne sait pas comment on va faire, bon, on ne sait pas où aller, on n'a pas de famille ici, ni on ne connaît personne ici.
Oui, c'est dur.
Ça va être fatigant. Son premier grossesse, on était au dehors, on dormait au dehors. Bon, ça, c'est gâté. C'est la deuxième qui est là.
Il y a eu une fausse couche.
Elle a fait fausse couche.
Dans 3 mois. De grossesse.
Oui, 3 mois de grossesse, elle a fait fausse couche parce qu'elle était au dehors. Peut-être si on est au dehors encore, ben, ça va se répéter. Donc, moi, mon souhait, c'est pas ça. Voilà.
Moi, je serai là jeudi pour manifester. J'invite tout le monde de venir nous aider, de nous épauler, parce que c'est notre combat à tous, pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour plein de personnes. Il y a d'autres qui ont des problèmes de santé. Il y a plein, chacun a ses problèmes. Moi, en tout cas, je serai à la manifestation le jeudi. C'est notre cause. Si on se retourne, qui va se battre pour nous? Personne. C'est nous qui vivons là, c'est nous qui devons être là-bas. J'y serai.
Je répète, la manifestation qu'on va faire là, on va défendre notre droit, on va sortir pour manifester. Ça, c'est obligatoire, c'est notre droit. On est des humains comme vous, comme eux. L'État doit regarder notre situation. Tout le monde va regarder ce qu'ils sont en train de nous faire ici. On va tout filmer. On défend notre droit, droit de l'homme. On est droit, frère. Ils ne vont jamais nous laisser dehors comme un chien. Ça, c'est fini maintenant. On connaît notre droit.
Voilà, on vient d'entendre les témoignages d'habitants et habitantes de Pyramide, qui est donc menacée d'expulsion, où il y a 270 personnes, dont 10 femmes isolées, avec une femme enceinte, 3 familles, 5 enfants. Et on écoute tout de suite un petit extrait du rassemblement qui a donc eu lieu jeudi 7 septembre et pas vendredi, comme j'ai dit tout à l'heure. Un petit extrait donc de ce rassemblement.
Un toit pour tous, un toit pour tous. À bas l'expulsion,
à bas l'expulsion,
à bas l'expulsion,
à bas l'expulsion,
à bas l'expulsion.
Donc la mairie a décliné la proposition de réquisition en disant que c'était pas possible parce que finalement la mairie du 7e vient d'accorder un permis de construire aux propriétaires et donc du coup ils ne peuvent plus faire de réquisition. Par contre, Monsieur Chi qui nous a reçus rencontre la préfète chargée de je sais pas quoi, la police ou je sais pas quoi. Il demande à ce qu'il y ait une réunion entre la préfecture, la mairie et le collectif. Ceci dit, nous on aura expliqué qu'on n'attendait pas grand-chose du gouvernement puisque, en effet, il retire de plus en plus les moyens qu'il mettait en œuvre jusqu'à présent. Donc, on ne voit pas pourquoi ils inverseraient cette politique maintenant. Donc, on leur a dit que c'était de leur responsabilité de faire une vraie rupture avec cette politique. Soit ils continuent de se relancer la balle les uns les autres et dire « c'est pas moi, c'est lui ». Soit ils montrent une solidarité effective.
Pas de solution,
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 pas de solution.
Voilà, on vient d'écouter un petit extrait donc du rassemblement qui avait lieu jeudi dernier. Et un nouveau rassemblement est appelé ce mercredi 13 septembre, toujours place de la Comédie à 17h30, toujours pour mettre la préfecture et la mairie, la ville de Lyon, face à leurs responsabilités en termes d'hébergement et pour leur demander à tout le moins de ne pas expulser des gens dont ils apparemment ne sont pas en mesure de les héberger pour l'instant. Et des habitants et des soutiens seront reçus par Madame Runel jeudi matin à 9h30. C'est pour ça que c'est important d'être très nombreuses et nombreux au rassemblement mercredi, place de la Comédie à 17h30. En soutien aux habitants et habitantes de Pyramide. Et pour continuer sur ce petit dossier sur les luttes pour le logement et l'hébergement dans l'agglomération lyonnaise, on passe cette fois à une lutte victorieuse. Ça fait du bien, c'est la rentrée. Et on va tout de suite entendre un petit reportage sur les occupantes du gymnase Bellecombe.
Du coup, on est le 1er septembre. On est un goûter de fête au gymnase Bellecombe parce que les familles qui occupaient le gymnase depuis le 22 juin ont obtenu des hébergements. Voilà.
Une très grande nouvelle, une très grande victoire. Donc la semaine prochaine, c'est ce qu'a annoncé la mairie, nous allons quitter les lieux, on va lever l'occupation. Parce qu'on a obtenu plusieurs de nos revendications. Personne ne va aller à l'hôtel et surtout, tout le monde reste à Lyon, proche des écoles, voilà, dans un centre d'hébergement. Donc qu'on peut rappeler que ces deux mois d'occupation, ils ont été difficiles. Il y avait des conditions très dures dans le gymnase. On a fait beaucoup de rassemblements, beaucoup d'actions. Mais finalement, après tant de luttes, on a réussi à gagner. Donc la lutte a payé. On a forcé les institutions à nous écouter. On a mis la pression à la mairie, à la préfecture. Même si on n'est pas naïve, on sait que la mairie nous héberge pour récupérer son gymnase. Je voulais rappeler que ces deux mois d'occupation, ils ont fait que renforcer notre solidarité. Et la lutte, elle continue pour un logement pour toutes et tous.
A priori, le déménagement aurait lieu la semaine prochaine. Donc il faut continuer à se mobiliser pour que ça ait lieu dans les temps, dans des bonnes conditions, pour que les familles qui ne sont pas intégrées au dispositif le soient le plus vite possible, en même temps que les autres. Donc restez connectés, continuez à suivre un peu la lutte ici, et on appellera sûrement à d'autres mobilisations et à de l'aide pour le déménagement. Merci.
Donc on est là dans la salle gymnase. Avant j'étais dans la rue, après un combat vraiment, 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 on a squatté cette salle-là. Voilà. Donc par rapport à la rue, bien sûr, c'est la salle gymnase, c'est plus que sécurisé et tout. Sinon, on souffre dans la salle. Voilà, on souffre la chaleur à cause de la charpente métallique, la chaleur grave. Si c'était ailleurs 40%, dedans c'est 60%. Voilà. Donc les insectes, les cafards, les souris, le stress, des conflits et tout. Donc on ne vit pas bien vraiment, vraiment, on n'était pas à l'aise. Vraiment un combat avec la métropole, la préfecture, la mairie, à chaque fois. On a eu une victoire vraiment. Normalement, cette semaine, il y aura des nouvelles pour nous héberger, voilà.
Donc l'association Saint-Toi, donc on fait des réunions, elle dit qu'il y a des réunions, on assiste des réunions. Comme elle le regardait maintenant, il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants qui sont au dehors. Donc on a décidé de faire quelque chose parce qu'on a demandé, elle dit qu'il n'y a pas de logement, on ne fait rien pour nous, que c'est nanana, il y a beaucoup de monde. Donc nous aussi, on a décidé pour récupérer des images, peut-être on va gagner du force. Donc on a récupéré des images, peut-être c'est deux mois comme ça, ou bien deux mois et demi. Donc on a fait beaucoup de démarches avec l'association Sans Toit. On est parti à la mairie, elles ont dit qu'il n'y a pas de solution, donc qu'elle ne fait rien pour nous. Nous aussi, on dit ok, pas de soucis. Mais en tant que nous, on n'a pas de logement, on est dans le gymnase, on ne quitte pas dans le gymnase. Mais donc tous les mois de août là, les gens qui sont en vacances, mais il y a des gens qui sont retournés pour nous soutenir. On remercie Sans Toit parce que à nous force c'est eux. Même là c'est la mairie qui donne, mais à base de Sans Toit. Parce que nous avec le mairie, on ne fait rien. Donc vraiment on remercie de Sans Toit. On remercie à la mairie aussi ce qu'elle a fait. Mais on n'oublie pas à la base.
On était 15 familles et des femmes seules.
Voilà,
en tout, il y avait une cinquantaine de personnes, voilà. Dont quelques femmes seules, beaucoup de familles monoparentales, beaucoup d'enfants, oui. Sur les à peu près 50 personnes, dont 35 enfants quand même.
Oui.
Donc c'était sportif.
Oui, avec beaucoup de... Les enfants souffrent, mais vraiment, quand tu fais le combat, même si tu souffres, il faut que tu l'acceptes tout pour que tu gagnes le combat. Maintenant, ils ont proposé des maisons. On n'a pas visité d'abord, mais... À mon avis, peut-être ça va être bon parce qu'on a dit qu'on ne veut pas d'hôtel, on ne veut pas de foyer. Parce que l'hôtel, c'est pas bon. Le hôtel pourri qu'elle donne des gens pour ce qu'elle débrasse. Mais donc,
c'est
nous,
momentanément,
on,
juste.
Oui, nous, on voilà. Savait tout ça. C'est pour cela qu'on a proposé tout ce. Si, en tout cas, elle accepte notre demande. Ce qu'on a demandé, elle a fait. Donc vraiment, on est content quand même aujourd'hui, comme ça va. C'est pas fini, on commence de bâtir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dehors encore. Donc on commence encore de bâtir. Il faut qu'on est là pour loger toutes les femmes qui sont dehors avec les enfants. C'est pas nous seuls. Si l'association Saint-Toit est prête, nous aussi on est prête pour soutenir les autres aussi. Parce que c'est le même cas avec nous. Donc on ne lâche plus maintenant. Donc c'est une association qui soutient les gens qui sont dehors. Donc nous tous on est dedans.
En gros, nous, avec l'association Jamais Sans Toi, avec le collectif DAL, Droit au Logement, et plein de femmes qui étaient à la rue et qu'on avait rencontrées dans nos permanences, dans les écoles, à droite à gauche, On a décidé au printemps dernier de faire des réunions en non-mixité pour parler des problématiques des personnes qui sont à la rue, notamment des femmes, notamment des familles, des enfants. On a fait 4 lundis d'affilée et après on s'est rendu compte qu'on était de plus en plus. La première réunion on était 40, la deuxième on était 60, 70 et on a décidé de, avec les familles et les femmes qui étaient là, d'occuper un gymnase pour se mettre à l'abri pour l'été et surtout pour demander la mise à l'abri et l'hébergement de toutes les personnes du collectif. Et du coup les conditions du gymnase étaient très dures et la mairie a pas du tout aidé. En fait la mairie dès le début elle a juste mis des agents de sécurité, elle a dit qu'il n'y avait pas de place d'hébergement, la préfecture a dit qu'il n'y avait pas de place d'hébergement, tout le monde dit qu'il n'y a pas de place d'hébergement. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une recrudescence énorme du nombre de familles et d'enfants et de femmes à la rue, à Lyon et partout en France. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on allait utiliser ce gymnase pour visibiliser ça. Et on n'est pas resté que dans le gymnase. On s'est organisé dans le gymnase pour s'entraider, pour accéder aux besoins de tout le monde. Mais on est aussi allé faire des rassemblements devant la mairie, demander des rendez-vous et exiger d'être écouté, faire venir des journalistes. Et aujourd'hui, là, on est fin août et même 1er septembre aujourd'hui, la mairie, elle veut récupérer son gymnase parce que les activités vont recommencer. Et du coup, on sait très bien que c'est que par la lutte qu'on a obtenu la victoire. Parce qu'en fait, la mairie veut récupérer son gymnase, la mairie veut protéger son image. Elle veut pas assumer de remettre des familles à la rue. Et du coup, elle a fini par accepter d'héberger toutes les personnes qui sont présentes dans le gymnase. Mais on sait très bien que c'est pas de sa volonté, que c'est que par le rapport de force qu'on a obtenu ça, que c'est que parce qu'on est resté solidaire et qu'on était un collectif de femmes très soudées et très fortes, et que personne n'a lâché, personne n'a craqué, même dans la canicule, même dans la galère et tout. Et du coup, on est très contente aujourd'hui de cette victoire, mais on continue parce que, comme disaient les copines, il y a encore plein de familles qui sont à la rue, il y a même des personnes qui sont dans le collectif, qui n'ont pas pu être intégrées au gymnase parce que Sandrine Runel, l'adjointe à la solidarité de la ville, a refusé catégoriquement que des personnes rentrent après la première heure d'occupation où elle est venue et où elle a fait un recensement. Et du coup, il y a des familles qui sont restées dehors et les agents de sécurité les ont empêchés de rentrer dans le gymnase pendant tout l'été. Donc voilà, aujourd'hui, on a encore des familles qui font partie du collectif et qui n'ont pas de solution d'hébergement et qui sont aujourd'hui encore à la rue. Et surtout, même en dehors de ces familles, en dehors d'autres collectifs, il y a encore plein de femmes et d'enfants et de personnes qui sont à la rue. Et donc, on a décidé de continuer à se mobiliser, de continuer les réunions en non-mixité, sans hommes cis, pour pouvoir s'organiser avec les personnes qui le veulent et qui veulent se battre contre cette situation qui est indécente.
En fait, c'est une chanson qui exprime tout ce qu'on a vécu du début jusqu'à la fin, de toutes les difficultés. Il n'y a pas tout dedans, on aurait aimé tout mettre, mais on n'a pas pu, parce que sinon ça aurait fait trop long. On a mis beaucoup de temps à écrire les paroles, on les a écrites avec du cœur, on les a pas écrites comme ça juste pour écrire.
Vous n'imaginez pas à quel point on a souffert. Vous n'imaginez pas à quel point on a souffert.
On devait même dormir dans une école. Vous n'imaginez pas à quel point on a souffert.
Vous n'imaginez pas à quel point on souffert. On devait même dormir dans les rues.
Vous n'imaginez pas à quel point on a souffert. On a dû même dormir dans les rues. Vous n'imaginez pas à quel point on a souffert. On a même dû dormir dans les écoles.
Même à la fin, on dit qu'on va pas s'arrêter, on va pas abandonner, même si vous nous donnez un foyer, c'est un foyer, c'est pas notre propre maison, on va pas abandonner, c'est que le début.
Victoire !
Victoire !
La peur de la honte, la peur du jugement, on n'a pas de logement, la faute de l'État. La peur de la honte, la peur du jugement, on n'a pas de logement.
En fait, j'espère qu'il y a un chanteur qui est passé par là et qui voudrait nous embaucher.
La peur de la honte, la peur du jugement, on n'a pas de logement, la faute de l'État.
On a réussi notre combat, on n'a pas lâché, c'est que le début.
et on vient d'écouter un reportage sur la victoire des occupants et occupantes surtout du gymnase Bellecombe. Donc après presque 3 mois d'occupation, elles déménagent mercredi dans leur hébergement, des chambres dans un centre d'hébergement. Mais comme on a entendu au cours du reportage, il y a plusieurs familles qui n'ont pas obtenu d'hébergement car elles ne dormaient pas dans le gymnase au moment où il y a eu le recensement. Donc elles continuent la lutte et les réunions en non-mixité tous les lundis, en général entre 17h et 18h à la Bourse du Travail. Elles demandent maintenant des informations et une visite de leur hébergement, un déménagement rapide et dans de bonnes conditions, des engagements écrits qu'il n'y aura aucune remise à la rue et un hébergement pour toutes et tous, pour toutes les femmes à la rue, pour toutes les femmes du collectif. Et on continue notre dossier sur les luttes pour le logement et l'hébergement.
Oui, alors pour continuer de lutter, on vous rappelle que les permanences du DAL ont repris. Donc les permanences se tiennent le mercredi de 17h à 19h au local du Jusqu'ici au 169 Grande Rue de la Guillotière. Donc quel est le principe de ces permanences? C'est de rencontrer des personnes concernées par le mal logement ou des personnes qui n'ont pas accès au logement. Et donc l'objectif, c'est de se rencontrer pour réorienter les personnes en fonction de leurs besoins. Mais qui plus est, c'est aussi l'objectif d'organiser la lutte ensemble. Donc organiser la lutte à travers les assemblées des mal logés. Donc on vous invite à venir rencontrer les militants et militantes du DAL lors des permanences. Et lors de ces permanences, ces personnes-là vous informeront sur les dates des prochaines assemblées des mal logés. Et donc les assemblées des mal logés, le but c'est d'organiser des actions de visibilisation sur les différentes situations rencontrées lors des permanences. Donc je rappelle, mercredi de 17h à 19h au 169 Grande Rue de la Guillotière.
Et on va cette fois passer à notre rubrique locale, après cette petite rubrique logement-hébergement, pour parler de la marche Justice et Vérité.
Oui, samedi 9 septembre, je me suis rendue à la manifestation pour exiger justice et vérité pour Idir, organisée par l'association Idir Espoir et Solidarité. Au départ de Bellecour, 200 à 300 personnes étaient présentes sous un soleil de plomb pour témoigner leur soutien à la famille d'Idir et à toutes les autres familles victimes des meurtres de la police. On écoute tout de suite quelques témoignages.
Aujourd'hui, moi, la maman d'Idir, et mère de tous les détenus, je demande justice et paix pour tous et pour tous les citoyens payant pour leurs délits et que l'État paye pour ses crimes. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont des familles, des frères et sœurs. Il faut qu'ils sachent, quand ils tuent quelqu'un, ils vont tuer toute la famille.
Idir, Idir, on n'oublie pas, on pardonne pas.
Idir, Idir, on n'oublie pas, on pardonne pas.
Je suis venu ici aujourd'hui parce que c'était passé une meurtre dans les prisons de Corba. Ils ont tué notre frère Idir et on veut la justice pour lui. On est dans un état raciste qui est en train de cacher tout et nous on cherche la vérité, on veut la vérité, on veut montrer à les gens que les gens qu'on parle dans les prisons, c'est pas ils partent dans les cimetières, ils reviennent morts, tu vois. Et du coup nous on est là aujourd'hui, on a le courage pour faire transférer notre message qu'on veut la justice pour Idir. On veut la justice pour plein de gens parce qu'on est vraiment dans une inégalité, dans un état vraiment raciste qui est en train de cibler certaines communautés. Et du coup, pour ça, on est là aujourd'hui.
J'espère que la justice fait son travail correctement et qu'elle arrête de fermer les yeux. Et pas de justice.
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 Malheureusement, la justice, elle veut toujours pas dire la vérité, mais nous, on veut la vérité. Ça veut dire le dossier, à chaque fois, il y a des soucis, le procureur, il reçoit pas les dossiers. Et du coup, cette fois, on est le début d'année, les rentrées scolaires. On va reprendre un nouvel avocat, un avocat algérien, elle sera bon. Et on va voir la vérité, tu vois.
On n'oublie pas, on pardonne pas. On n'oublie pas, on pardonne pas.
On a un ballon blanc qui symbolise un peu l'esprit d'Idir qui est avec nous et qui à la fin il va s'envoler.
On cherche la vérité. On a marre de le racisme. On a marre de tuer une jeunesse qui peut faire plein de trucs dans la vie. On est en train de détruire les gens. C'est pas nous, mais cet état raciste qu'elle est en train de détruire vraiment les gens et vive la liberté, vive vraiment, tu vois, vive la justice.
Voilà, on vient d'écouter un petit extrait de la marche Justice et Vérité pour Idir de samedi dernier. Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est le Canus Info du deuxième lundi du mois. Et on passe maintenant à l'agenda.
Donc, pour rappel, mercredi, 13 manifestations en soutien aux habitants et habitantes du squat de la Pyramide, qui sont donc expulsables à partir de demain. Rendez-vous à 17h30, place de la Comédie.
Et donc, toujours le mercredi, on rappelle encore une fois le retour des permanences d'entraide du DAL de 17h à 19h au local du Jusqu'ici, le 169 Grande Rue de la Guillotière.
Le jeudi 14 septembre, il y aura la diffusion du film « Enfermé nulle part » sur la réalité des personnes enfermées en zone d'attente à la librairie La Griffe à 19h.
Et on passe au vendredi 15 septembre avec un meeting à la Bourse du Travail pour la rentrée des luttes et organiser la riposte contre le capitalisme qui se tiendra à partir de 18h30.
Et après toutes ces luttes, on se retrouve pour faire la fête au Rita Plage pour la boum des super féministes de 18h à 23h le vendredi 15 septembre.
Et on peut d'ores et déjà annoncer une manifestation le 23 septembre contre le racisme systémique et contre les violences policières. Et c'est la fin du Canus Info du deuxième lundi du mois. La prochaine émission sera donc le 9 octobre. On vous dit donc à dans un mois et on vous laisse avec les bandes continues de Radio Canus.